Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Michel Villac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire française contemporaine et spécialiste aussi de l'histoire des intellectuels. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po et tous ceux qui sont passés par Sciences Po Paris se souviennent de vous et de vos cours. Vous avez, si j'ai bien compté, mais peut-être que j'en ai oublié, 41 livres au compteur, dont les plus connus, qui sont peut-être pas ceux que vous préférez, mais enfin qui sont ceux qui ont eu le plus de notoriété, donc Le siècle des intellectuels, 1997, et puis avec Jacques Julliard, Le dictionnaire des intellectuels français, qui effectivement est devenu un classique. Et puis, dans votre actualité récente, deux biographies, donc Clémenceau en 2007, qui vient de paraître en poche chez Tempus, et en 2010, une biographie de Germaine de Staël. Alors, vous avez accepté, je vous remercie de venir jusqu'ici, autour de la question suivante. Les trois droites, telles qu'elles ont été définies donc en 1954 par René Raymond, sont-elles encore valides? Quelle est leur part de validité? Et peut-on, comme vous le faites, en ajouter une quatrième? Alors, pourquoi vous posez la question à vous? Parce que vous avez côtoyé pendant très longtemps René Raymond à Sciences Po. Il est un de vos maîtres, et vous avez, donc c'est ça qui nous réunit aussi, vous avez publié donc votre dernier livre, je crois, qui s'appelle « La droite hier et aujourd'hui », donc publié chez Tempus en 2012. Donc livre qui a une quadruple ambition, un, d'être un livre historique sur l'histoire des droites, deux, un livre de sciences politiques, puisque vous reprenez effectivement cette trilogie de René Raymond et vous essayez à la fois de la mettre en perspective et en plus donc d'apporter votre contribution sur cette quatrième droite. Troisième chose, c'est un livre d'analyse politique à chaud. Vous reprenez un certain nombre de débats que vous avez eus et vous les complétez. Donc débat avec Marcel Gauchet dans le débat sur Nicolas Sarkozy. Et puis, quatrième ambition de ce livre, de petits portraits politiques dedans, tout à fait intéressants et passionnants, sur Adolphe Thiers, Tocqueville, Maurice Barrès, François de la Roque, etc., etc. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut commencer, si vous le voulez bien, par effectivement ce livre donc, qui existait au début, en 1954, sous le titre « La droite en France ». Et je précise donc que dans ce livre « La droite hier et aujourd'hui », vous reprenez une contribution faite par vous lors d'un colloque en décembre 2010 en hommage à René Raymond, donc qui, je le rappelle à nos auditeurs, est mort donc le 14 avril 2007 et où vous développez effectivement ces différents éléments. Donc, quels sont, selon vous, les éléments de novation, de séisme, d'événement, dites-vous, en 1954, lors de la publication de ce livre « La droite en France », faite, et vous le rappelez dans votre article, par un tout jeune historien de 35 ans.
Effectivement, en 1954, paraît ce livre « La droite en France », qui est tout à fait différent de l'historiographie de l'époque. En histoire politique, on en est encore à ce que l'on a appelé l'histoire événementielle, l'histoire des régimes politiques, les biographies politiques, l'histoire diplomatique. Et voilà que ce jeune professeur, donc 35 ans, vous l'avez dit, écrit un livre qui est d'allure tout à fait différente, qui a, comment dirais-je, une nature conceptuelle, n'est-ce pas? Il prend un grand thème de la vie politique, la droite, et c'est le premier historien, à mon avis, qui véritablement va traiter à fond du sujet. Or, en 1954, il va énoncer un certain nombre de réalités qui ne sont pas tout à fait d'époque. Et notamment, trois grandes idées dans ce livre, pour commencer. Il y a, depuis la Révolution française, une vie politique qui s'est organisée sur l'opposition binaire entre la droite et la gauche. Deuxièmement, la gauche et la droite sont plurielles Et par conséquent, il faut voir quels sont dans la droite les différents courants qui la composent. Et troisième idée, c'est celle de la continuité jusqu'à nos jours de ces familles politiques qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans le théâtre politique. Alors, la première idée, en effet, était à contre-courant, parce que nous étions donc au milieu des années 1950, sous la 4e République, c'est-à-dire à un moment où le binôme ou l'antagonisme droite-gauche n'est pas du tout évident, puisque la gauche, on pourrait dire, elle n'existe pas à cause d'un puissant parti communiste, et nous sommes dans la guerre froide, et cela empêche donc une véritable unité de la gauche, un véritable pôle de la gauche, et la droite elle-même est travaillée par des divisions considérables, et notamment par le défi gaulliste qui refuse la 4e République. Or, lui, il dit que cela n'est qu'apparence, car en fait, depuis 1789, il y a bien cette opposition idéologique, culturelle, politique, entre des gauches et des droites. La gauche et la droite. Alors, deuxième idée, effectivement, la droite, il faudrait l'appeler, malgré le titre de l'époque, mais dans les éditions suivantes, il dira les droites. La droite est composite. Et il va faire une typologie historique des droites avec le légitimisme qui appartient dans la filiation contre-révolutionnaire, la droite orléaniste et la droite bonapartiste. Et il faut bien dire que cette trilogie est restée jusqu'à nos jours opérationnelle. Il y a très peu d'auteurs, historiens ou journalistes qui, parlant de la droite, ne fait pas allusion, au moins, n'est-ce pas, à cette tripartition. Et je citais dans mon livre Alain Gérard Slama, qui, aussi bien à la radio que dans son ouvrage qui s'appelle « La société d'indifférence », n'est-ce pas, nous dit que, à propos de Nicolas Sarkozy, la droite sarkozienne, eh bien, elle appartient aux trois droites. Elle a pris ce qu'il y avait de plus mauvais dans les trois droites. Bon, là, il y a un aspect polémique. Et c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est la référence, précisément, à l'ouvrage de René Raymond. Quelque chose de par conséquent qui est véritablement à la base de notre culture politique en France, n'est-ce pas? Nous avons tous ceux qui sont un peu intéressés par l'histoire politique, chacun de nous, nous avons en tête cette tripartition. Et puis enfin la continuité. Alors la continuité, ça voulait dire non pas que il y avait trois organisations, trois partis qui se sont perpétués comme cela d'un siècle à l'autre, mais qu'il y avait des tendances, des familles culturelles ou idéologiques que l'on retrouve même si elles s'additionnent, elles établissent des rapports tout à fait évolutifs, additifs ou autres, n'est-ce pas? Par exemple, il prenait le cas de l'Action française pour dire, vous voyez, l'Action française, c'est évidemment un peu de bonapartisme, il y a du bonapartisme, il y a du légitimisme, et il y a un peu d'orléanisme aussi. Mmh. Alors, c'est dire que sa conception des droites n'était pas figée, qu'elle était parfaitement consciente et lucide d'une évolution de ces trois droites qui pouvaient se combiner et surtout qui pouvaient s'adapter aux problèmes nouveaux de chaque époque. Voilà, c'était les trois idées fondamentales.
Alors, pour en rester sur ce coup de tonnerre de 1954, vous dites, et lui-même l'a reconnu, que son inspiration ne venait certainement pas de la science politique traditionnelle, mais avant tout d'un critique littéraire qui a eu son heure de gloire et que Antoine Compagnon vient de republier, qui s'appelle donc Albert Thibaudet, et qui a écrit en 1932 « Les idées politiques de la France » et qui dit deux choses, et vous me direz en quoi est-ce qu'effectivement il y a continuité ou rupture avec ce que dit René Raymond. D'une part, que la politique, ce sont des idées, et non pas des partis politiques, ou des hommes politiques, des idées qui se retrouvent, évoluent, et puis qu'il y a trois droites, le traditionnalisme, l'industrialisme, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, d'une façon ou d'une autre, considèrent que les intérêts économiques sont plus importants que les intérêts politiques, et puis le libéralisme, Tocqueville, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet aussi de rupture parce que cet historien-là ne se référait pas à des historiens, mais prenait son inspiration chez des auteurs qui n'étaient peut-être pas lus couramment parmi vos confrères historiens ou parmi vos confrères de la science politique ?
Assurément, et du reste, les critiques les plus intéressantes et les plus nombreuses de ce livre seront faites plutôt par des politologues que par des historiens. Oui, parce que l'histoire politique, jusque-là, était quand même très largement ce qu'on a appelé avec un peu de dédain l'histoire événementielle. C'était l'histoire, bon, encore une fois, je le disais tout à l'heure, d'un régime, d'une période, etc. Et lui, il va rompre avec cette méthode, si c'en est une, n'est-ce pas, pour précisément réfléchir sur un concept politique, celui de droite. Et ça, c'était pas dans la manière des historiens de la politique. Car à l'époque, il y avait, si vous voulez, deux grandes tendances qui étaient d'une part une histoire traditionnelle, politique et diplomatique, qui s'enseignait surtout largement à la Sorbonne. Et puis, vous aviez évidemment l'école des annales, qui, au fond, faisait l'impasse sur la politique, qui ne s'intéressait pas, parce que c'était justement une histoire événementielle, une histoire par le haut, une histoire par les grandes têtes, et non pas l'histoire des hommes et des femmes qui sont dans la société et qui sont anonymes en général. Donc, lui, il ne s'aligne sur aucune des deux écoles, n'est-ce pas, puisque il fait une histoire intellectuelle. Et effectivement, il emprunte beaucoup. Alors, non seulement Albert Thibaudès, qui est très important, mais aussi certainement un peu à André Siegfried, et puis à quelqu'un qui est plus proche de lui par l'âge, etc., qui est François Goguel, qui n'est pas historien lui-même, qui est un politiste, un politologue, et qui a écrit un grand livre alors qu'il était prisonnier en Allemagne pendant la guerre, qui s'intitule « La politique des partis sous la Troisième République » et qui était justement un essai mettant en relief l'histoire binaire de la politique française. Entre un parti, au sens très large du mot, un mouvement conservateur, et au contraire, un mouvement progressiste. Et que, selon Goguel, donc, on retrouvait cette opposition constamment. Notamment, sous la monarchie de Juillet, on ne disait pas gauche et droite, on disait mouvement pour la gauche, résistance pour la droite. Et sous la Troisième République, il montre à quel point on va retrouver ces deux tendances. Donc, indiscutablement, René Hermon, par conséquent, suivait Goguel, Thibaudet, avec évidemment sa propre perception, puisque Thibaudet, vous avez résumé les trois droites qu'il voyait, et sans insister sur le bonapartisme, alors que le bonapartisme, le type bonapartiste, a bien été analysé par René Raymond. Mais alors, il y avait autre chose pour l'époque, et même peut-être encore très largement pour aujourd'hui, c'était cette idée que, au fond, les forces politiques, les mouvements politiques, les partis politiques, sont les reflets des classes sociales, sont les reflets de la situation économique et sociale. Alors, c'est une vue, évidemment, marxiste qu'avaient les partis de gauche, les intellectuels de gauche, mais ça débordait très largement les marxistes, n'est-ce pas ? C'était véritablement une sorte de béaba de la politique. Il y a des classes sociales, ces classes sociales ont des représentants, et au fond, la politique est une superstructure qui, par conséquent, dépend de cette infrastructure que sont les classes sociales. Alors lui, il montre avec force, alors en reprenant effectivement des idées de Thibaudet, etc., que la politique, même si, dans une certaine mesure, naturellement, reflète l'antagonisme des classes et des intérêts, car dire des classes, on pense toujours à deux classes, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué, surtout dans un pays comme la France, où vous aviez une paysannerie extrêmement forte jusqu'au moment où écrivait René Raymond. Donc, résumer la vie politique en deux classes sociales qui auraient comme représentant la droite pour les nantis et la gauche pour les prolétaires, etc., il va rompre nettement avec cela pour montrer que les motivations politiques, les comportements politiques dépendent non seulement de ses motivations économiques et sociales, mais aussi et peut-être surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui les représentations. On a appelé ça il y a une vingtaine d'années les mentalités, les cultures, les attitudes religieuses. Et effectivement, je me suis permis lors de ce colloque de faire allusion à mon cas personnel. Je suis le fils d'un homme qui, comme beaucoup de gens de sa génération, était issu des milieux de la paysannerie, disons, qui a fait cet exode rural et qui s'est installé à Paris, dans la région parisienne. Or, cet homme a toujours eu des métiers extrêmement modestes jusqu'au moment où il s'est stabilisé dans un poste de receveur de tramway puis d'autobus. Donc c'est dire qu'il n'appartenait pas ni à la bourgeoisie ni aux gens riches. Or, il a toujours été de droite. Et pourquoi? Parce qu'il était issu d'un Pas-de-Calais. Je dis d'un Pas-de-Calais parce qu'il y a plusieurs tendances, n'est-ce pas, plusieurs cultures dans le nord de la France. Mais lui, il appartenait à ce milieu extrêmement catholique. Il avait été élevé chez les frères des écoles chrétiennes, etc., etc. Et pour lui, même s'il vivait dans un milieu d'employés, d'ouvriers, il n'était pas question même de faire grève et de voter à gauche. Donc, René Raymond m'avait, quand je l'avais lu pour la première fois, bien éclairé sur cette idée, n'est-ce pas ? Parce que j'aurais pu trouver que mon père était un farfelu, quelqu'un qui était un déviant total par rapport justement
à ses intérêts de classe.
Et oui, évidemment. Et là, je voyais bien que c'était quelque chose de très général. Et puisqu'on dit aujourd'hui le peuple de gauche, il faut bien qu'il y ait un peuple de droite. Voilà. Donc, dans ce livre, vous voyez, c'était pas seulement l'analyse des droites, c'était aussi une analyse plus globale sur les comportements politiques, sur la vie politique.
Alors, il y a un point, et puis après on reviendra après sur la critique que vous en faites. Donc, ces trois droites, hein, je le rappelle, donc légitimistes, orléanistes et puis bonapartistes, ces trois droites-là, dit-il, survivent à l'installation définitive de la République vers 1890-1900 et se prolongent dans l'histoire du XXe siècle français. Alors, comment est-ce que lui justifie cette continuité qui posera, et on le verra avec vous après, problème?
Alors, la continuité, encore une fois, ce n'est pas la continuité des partis constitués, n'est-ce pas, mais des tendances profondes, culturelles avant tout, si l'on veut, de familles d'esprit. Si l'on prend ces trois droites, donc on voit que le légitimisme, qui est le parti, encore une fois au sens très large du mot, des vaincus, des nostalgiques, de ceux qui ont rêvé de la Restauration, qui l'ont faite à un moment donné, mais qui ont été balayés par la Révolution de 1830, et qui sont restés jusqu'au début de la Troisième République, tout de même un courant assez fort, nourri aussi par une pensée, une vraie pensée intellectuelle, notamment celle de, on s'y réfère toujours, de Joseph de Maistre et de Bonald. Donc, il y avait des convictions qui étaient anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires, défense de la monarchie, d'une monarchie dynastique, plus ou moins de droit divin, avec un respect des ordres, de la noblesse, et puis surtout avec cette idée forte qui va rester très longtemps, très puissante en France, c'est l'alliance du trône et de l'autel. Et si ce n'est plus le trône, c'est l'État. C'est l'État. Et donc, la place de l'Église dans la société va jouer un rôle, va être un enjeu très important sur la Troisième République, avec toutes les batailles qui ont eu lieu, et finalement le triomphe de la laïcité, la séparation des Églises et de l'État. Mais jusque-là, vous avez, même après la fin de l'espérance monarchiste, il y a eu une continuité de la volonté de préserver à l'Église catholique un magistère, pas seulement pour la vie de chacun, morale, privée, non, mais pour la vie publique. Et nous avons le meilleur représentant de cette continuité jusqu'à nos jours, c'est certainement l'intégrisme catholique, qui a constitué une des tendances importantes du Front National, avec un journal comme Présent. Donc ça, c'est la première droite qui se perpétue.
Donc qui se perpétue donc chez Maurras, qui se perpétue dans Vichy, et qui se perpétue, pour René Raymond, jusqu'à Jean-Marie Le Pen.
Oui, et entre-temps, pendant la guerre d'Algérie, chez un certain nombre de champions de la chrétienté, n'est-ce pas, contre l'islam ou autre, dans des entreprises éditoriales, de presse, et qui ont représenté des groupes importants et Aujourd'hui, peut-être, ce ne sont plus que des buts de témoins, mais néanmoins, il y a quand même un journal qui les représente. Bon, deuxième droite, alors celle-là.
Enfin, je fais une petite parenthèse, mais c'est juste parce qu'effectivement, chez Maurras, bien évidemment, l'investissement spirituel ou religieux n'est que de forme. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement ce qui l'oppose à la réforme, etc. Donc la conception religieuse, elle est vide.
Tout à fait.
Quant aux convictions personnelles. Mais voilà.
Maurras est un agnostique, mais qui admire profondément l'Église catholique parce que c'est c'est une hiérarchie et c'est une unité. Et par conséquent, les nationalistes français, à la fin du 19e siècle, comme lui au début du 20e, pendant l'affaire Dreyfus notamment, qui sont à la recherche d'un élément clé de la nation française, comme il n'y a pas d'unité de race, c'est dans la religion qu'ils vont la chercher, mais de manière effectivement formelle. Il ne s'agit pas de foi spirituelle, il s'agit bien d'une entreprise de récupération, au fond, n'est-ce pas, du magistère catholique. Mais en même temps, il y avait une alliance objective, puisque comme le catholicisme était attaqué par les républicains, par la volonté de créer une république laïque, etc., il y a eu, donc, pendant l'affaire Dreyfus notamment, et encore longtemps au XXe siècle, cette alliance entre catholiques sincères et, je dirais, ceux qui instrumentalisaient l'Église catholique. Jusqu'à la condamnation de 1926, n'est-ce pas, de l'Action française. Mais vous savez qu'en 1939, Pie XII est revenu sur cette interdiction. Alors la deuxième droite, c'est beaucoup plus visible, puisque c'est la droite, bon, qu'on peut appeler libérale, celle qui accepte une partie de l'héritage révolutionnaire, qui accepte le drapeau tricolore, et qui, je dirais, n'est pas obsédé par le régime dynastique. Bon, René Raymond l'a appelé orléaniste parce que effectivement, après 1830, elle est au pouvoir avec les Orléans. Mais en fait, cette droite orléaniste, qu'on peut appeler aussi droite libérale, elle s'est accommodée à un moment donné de la République. Et on va retrouver dans la 3e, 4e et 5e République ce courant qui s'est enrichi du reste par une partie de la gauche. Partie de la gauche qui était modérée, si vous voulez, laïque, modérée, et en même temps qui était antisocialiste et, a fortiori, anticommuniste. Le parangon, si vous voulez, de ce transfuge, si on peut dire transfuge, de la gauche vers la droite, c'est Raymond Poincaré. Et le parti Alliance démocratique, donc, c'est composé, entre les deux guerres, si vous voulez, même un peu avant, une droite libérale, minoritaire à droite, mais légitime dans la République, parce que laïque et parce que ses représentants venaient justement de gens qui étaient de gauche, qui étaient des républicains. Alors, cette droite modérée a eu, j'ai cité Raymond Poincaré, on pourrait en citer
Tardieu, Paul Reynaud, et puis jusqu'à Giscard d'Estaing. Quoi. Voilà,
C'est sans doute lui qui a été le plus proche de nous, qui a été le meilleur représentant, le meilleur héritier de cette droite orléaniste, qui est libérale, par conséquent, libérale non seulement en économie, même si ça compte, hein, et c'est important, parce que je n'ai pas fait allusion à cette opposition entre le légitimisme qui était surtout représenté par les propriétaires terriens, et notamment la noblesse terrienne, et les orléanistes beaucoup plus par le capital mobilier, celui des affaires, celui des banques, bon, etc. Giscard d'Estaing, donc, a certainement été le représentant de cette droite libérale en économie, mais aussi libérale par les idées sur les mœurs. Rappelons-nous quand même de ces grandes réformes qui ont eu lieu à l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en 1974-1975. Et une loi comme celle de l'IVG, n'est-ce pas, elle est impensable pour un contre-révolutionnaire légitimiste intégriste. Et c'est pourtant un gouvernement de droite qui l'a fait voter, il est vrai, avec l'appui de la gauche, puisqu'une grande partie de la droite l'a refusé précisément. Donc, ce sont une droite qui est libérale du point de vue des mœurs, mais conservatrice du point de vue social, naturellement, qui se défend des intérêts. Et puis la troisième droite,
donc bonapartiste, qui
alors celle-là est encore plus
qui réapparaît donc avec,
encore mieux
avec le général de Gaulle,
encore mieux représenté, si on peut dire. Et alors avant le général de Gaulle, il y avait eu des opposants à la Troisième République qui se réclamaient justement d'un pouvoir personnel. Je prendrai l'exemple de Gustave Hervé, un ancien gauchiste. fasciste, donc, qui est, au moment de la guerre, la Grande Guerre, qui est devenu très patriote et qui...
Mais qui ne l'était pas avant 14, parce qu'il était antimilitariste.
Oui, il a changé vers 1912.
Honni par Péguy, en particulier.
Oui, absolument. Et Gustave Hervé, lui, on peut dire, même s'il n'a pas employé ce mot, qu'il était vraiment un bonapartiste. Et quand il écrit sa brochure « C'est Pétain qu'il nous faut » vers 1935, hein, il ne songe pas au régime qui allait être celui de Vichy, mais bel et bien à un homme fort, représentant...
L'homme providentiel.
Providentiel et représentant l'ensemble du peuple français contre... Alors, contre quoi ? Ben justement, contre les parlementaires. Parce qu'il y a dans le bonapartisme, un anti-parlementarisme qui ne se dit pas, peut-être, mais enfin, on voit bien comment le premier empereur et le deuxième, n'est-ce pas, réduisent considérablement les pouvoirs intermédiaires, notamment les pouvoirs du Parlement. Donc, assurément, le général de Gaulle n'est pas un bonapartiste au sens où il se référerait à Bonaparte, pas du tout, mais il y a bien chez lui cette idée qu'il faut renforcer considérablement le pouvoir exécutif, et il le montre très bien en 1946 dans son discours de Bayeux, parce que les républiques ont souffert justement de cette faiblesse du pouvoir exécutif, et pour être fort, ce pouvoir exécutif s'appuie sur la volonté populaire, sur le suffrage universel, et ça deviendra en 1962 évidemment l'élection au suffrage universel du président. Et entre ce chef et les Français, le peuple français, les pouvoirs intermédiaires ont tout de même été bien réduits, surtout par rapport, par comparaison, avec les régimes d'assemblée des 3e et 4e républiques. Donc vous voyez, la continuité, et je ne suis pas entré dans les détails, mais il y a bien, et René Raymond avait absolument raison, à mon avis, de montrer que il y a des comportements, des attitudes, des références, des représentations qui s'accordent avec ces trois modèles.
Alors nous allons faire une petite page musicale et nous reprenons juste après. Donc nous reprenons notre entretien avec Michel Vinocq, donc auteur entre autres de La droite hier et aujourd'hui, et autour de la question effectivement des trois droites telles que définies par René Raymond. Et maintenant nous allons essayer de voir de quelle manière est-ce que on peut critiquer ou dépasser cette trilogie des trois droites. Je rappelle donc que René Raymond a publié ce livre, et vous l'avez indiqué, en 1954, qu'il a été réédité en 63 et en 68, et que surtout en 1982, donc la droite en France est devenue les droites en France, et vous avez cité François Goguel, au moment de la parution donc des droites en France, a fait un article dans Le Monde pour dire à la fois tout le bien qu'il pensait de ce livre devenu effectivement un classique. Alors, vous, votre analyse consiste à dire que, en plus ou à côté de ces trois droites, existerait une quatrième droite. Alors, vous semblez reprendre, pour partie, à la fois l'analyse de Maurice Duverger, donc, qui, au moment de la parution du livre, dit que cette analyse est valable, mais sans doute jusqu'en 1914, au moment où la République s'installe de façon définitive d'une part, et puis vous reprenez aussi pour partie l'analyse de Sternel sur la droite révolutionnaire, tout en vous démarquant de lui, considérant que, contrairement à lui, vous ne pensez pas que cette droite révolutionnaire-là, donc entre 1880 et 1920, serait à l'initiative, la matrice du fascisme européen. Mais pourtant, vous reconnaissez qu'effectivement, il y a dans son analyse quelque chose qui est pertinent. Alors, première question, pourquoi, selon vous, il y a une rupture historique dans ces droites qui débuterait avec l'affaire Dreyfus, voilà, et que quelque chose d'autre naîtrait que vous vous appelez une droite nationale populiste?
Oui, un peu avant l'affaire Dreyfus, du reste, n'est-ce pas? Parce que, à partir des années 1880, nous entrons dans une autre période, vraiment, et à tous égards. Politique, bien sûr, la République s'est définitivement installée, mais aussi sociale, économique, puisque nous entrons dans ce qu'on a pu appeler l'ère des masses, l'ère des foules. D'abord parce que le suffrage universel va être, je ne dis pas adopté puisqu'il l'a déjà été, mais va être rendu plus libre, car sous le Second Empire, Dieu sait s'il a été contrôlé, manipulé. Donc nous avons d'une part le suffrage universel, d'autre part la liberté de la presse. Et dans les 30 années qui suivent, là jusqu'en 1914, nous sommes à l'apogée de l'histoire de la presse quotidienne, avec non seulement un journal quotidien pour chaque parti, mais je dirais même que à l'intérieur de chaque parti, vous avez plusieurs journaux qui représentent la vie de tel ou tel courant, de telle ou telle tendance. Et puis surtout, des journaux, comme le Petit Journal par exemple, qui tire à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc désormais, la politique, ce n'est plus confié à une aristocratie ou à une oligarchie de gens intellectuels, cultivés, des notables, mais que la politique passe par la rue. Parce qu'elle est dans la rue désormais. Il y a des manifestations, et qui sont parfois des manifestations violentes. Il y a des orateurs populaires, démagogiques, qui veulent entraîner les foules contre tel ou tel gouvernement. Donc, nous ne sommes plus du tout dans ces époques, n'est-ce pas, assez tranquilles, bien contrôlées, qu'on pourrait appeler, si vous voulez, censitaires, s'il n'y avait pas eu le Second Empire avec un suffrage universel quelque peu altéré. Nous sommes entrés vraiment dans une autre période. Alors, à ce moment-là, je vois naître effectivement une nouvelle droite, une quatrième droite. De quoi est-elle faite? Alors la difficulté, évidemment, c'est que jusqu'au Front National, disons, elle n'a jamais été véritablement unifiée. Elle est...
Elle manque de chef, dites-vous.
Elle manque de chef, notamment. Ou plutôt, elle en a trop. Mais enfin, elle n'en a pas un qui s'impose véritablement. Alors, il y a déjà une tendance qui n'existait pratiquement pas auparavant, en tout cas, qui n'a jamais eu cette ampleur, qui a été l'antisémitisme, avec Drumont. Drumont, qui connaît un succès colossal avec son livre « La France juive », qui lance le journal « La libre parole » et qui va faire des adeptes extrêmement nombreux depuis, un peu plus tard, le jeune Charles Maurras, n'est-ce pas, jusqu'à Rochefort, qui a été un communard, qui passe pour un homme de gauche, un pamphlétaire de gauche, mais qui va être surtout un pamphlétaire antisémite dans ces années-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit Drumont en gros? C'est que, quel est son ennemi? L'ennemi, et ça va être l'ennemi commun de cette quatrième droite, c'est la République libérale parlementaire. Pour plusieurs raisons. Dans le cas de Drumont, il y a, qui est catholique, il y a cette idée profonde que la République laïque a pour ennemi l'Église catholique. Donc la défense de l'Église catholique passe par l'adversité contre le régime parlementaire, et dans ce régime parlementaire, il voit la main de la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie, pour lui, c'est l'équivalent, n'est-ce pas, du pouvoir juif. Il va donc dénoncer cette espèce de complot qui, en France, vise à déchristianiser le pays, et qui s'appuie sur les loges maçonniques, sur les protestants anticatholiques donc, sur les juifs, puisque les juifs, selon lui, sont en train de conquérir non seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique et le pouvoir culturel. Alors, est-ce que ça fait une droite, cela? Ça ne suffirait pas, certainement pas. Et René Raymond, la première objection qu'il pouvait faire en disant « bon, enfin, les trois droites s'appuient quand même sur des œuvres intellectuelles. Les droites ont des références. Drumont n'est quand même pas une référence intellectuelle. Oui, mais va se développer dans la décennie des années 90 ce qu'on appelle le nationalisme. Et le nationalisme reprend à son compte l'antisémitisme de Drumont ainsi que l'antiparlementarisme et cette idée que la République parlementaire est en train de préparer la décadence de la France. Donc, pour lutter contre la décadence de la France, il faut premièrement désigner ses ennemis. Et les ennemis, ce sera Un peu plus tard, Charles Maurras, qui, dans une formule restée célèbre, n'est-ce pas, parlera de l'anti-France, composée, n'est-ce pas, des juifs, des maçons, des protestants, et des, ce qu'il appelle les métèques, c'est-à-dire les immigrés. Ce sont là les quatre forces qui sont l'anti-France. Mais avant même que Maurras ne formule cet antagonisme, ce complot, déjà dans les écrits de Drummond, de Maurice Barrès, des ligueurs anti-Dreyfusard, on trouvait cette idée, n'est-ce pas, de l'ennemi intérieur. Il y a un ennemi intérieur. Alors, dans cette extrême droite, disons pour aller vite, il y a certainement beaucoup de tendances. Beaucoup de chefs, par exemple, il y a ceux qui se réfèrent à la Révolution, comme Déroulède, qui, avec sa Ligue des Patriotes, lui, tout à fait dans la filiation de 89 et même de 93. Et puis, il y a les monarchistes, que deviendra l'Action française. Et puis, vous avez d'autres tendances encore, plus ou moins césariennes, donc césariennes, monarchistes, néo-royalistes, en tout cas, au moment de l'affaire Dreyfus, tous anti-Dreyfusards. Et cela compose, à mon sens, véritablement, une quatrième droite que j'ai appelée national-populiste, à la suite d'une expression d'importation qui vient surtout d'Amérique latine, que Taguieff a popularisé, que j'ai repris à mon compte. Et national-populiste, c'est-à-dire que c'est un nationalisme, et c'est un populisme parce que l'idée générale, c'est celle de la trahison des élites, et au contraire, la défense d'un peuple qui n'a pas véritablement le droit de parole et qui ne l'aura justement que lorsqu'on aura abattu cette oligarchie parlementaire et qu'on l'aura remplacée par un chef populaire. Ça, c'est le schéma, n'est-ce pas ?
Alors, à ça, on peut vous faire deux, trois objections. La première, c'est le nationalisme et l'antisémitisme dont vous parlez. Donc, il est partagé par la gauche et par la droite, ou pour des parties de la gauche et pour des parties de la droite, et puis 1914 va changer beaucoup de choses.
Attendez, excusez-moi de vous interrompre.
Je vous en prie, allez-y.
L'antisémitisme a été partagé, effectivement, mais pas jusqu'en 1914, car il y a eu l'affaire Dreyfus.
Oui, absolument.
Et c'est l'affaire Dreyfus qui a en quelque sorte reclassé, n'est-ce pas, l'antisémitisme. L'antisémitisme, bon, c'est un mot polyvalent, qui a beaucoup de sens, n'est-ce pas, depuis l'antisémitisme, comme on a appelé de bonne compagnie, consiste à raconter des blagues juives dans les salons, jusqu'au mouvement violent, n'est-ce pas, qui souhaite l'éradication des juifs de la société française, etc. Donc il y a toutes sortes de nuances, et il est vrai que souvent, il y a eu des écrits socialistes, n'est-ce pas, qui étaient, au fond, antisémites dans la mesure où le juif était assimilé
au capitaliste.
Voilà, au capitaliste. Voilà. Au banquier, à la finance.
D'où la réticence de la gauche de s'installer dans l'affaire Dreyfus, parce qu'au début, effectivement, ils considéraient que c'était une affaire entre bourgeois et capitalistes.
Oui, alors oui, ça c'était l'aile guédiste, n'est-ce pas, du socialisme, qui disait on n'a pas à s'occuper de cela, parce que c'est une affaire entre bourgeois. Bon. Alors, l'antisémitisme, donc, a été reclassé, donc, par l'affaire Dreyfus, puisque, à partir du moment où l'affaire Dreyfus devient une affaire juive, si on peut dire, ou anti-juive, à ce moment-là, les Dreyfusards, ceux qui défendaient le droit de l'individu contre le déni de justice, ceux qui, par conséquent, avaient pour eux, si vous voulez, l'idéologie des droits de l'homme, à ce moment-là, ne peuvent plus parler de manière antisémite, avec des mots antisémites, puisque précisément c'est l'adversaire. Mmh. Ce sont les anti-Dreyfusards qui, eux, vont véritablement, alors qu'il s'agit, l'affaire Dreyfus, c'est plus complexe que ça, n'est-ce pas ? C'est avant tout, je dirais, et ça commence surtout par là, le problème de l'armée. Est-ce que l'armée est au-dessus de tout soupçon ? Est-ce qu'elle est infaillible ? Et ça, c'est la thèse des anti-Dreyfusards, à savoir que le jugement d'un conseil de guerre ne peut pas être remis en question, alors que les défenseurs libéraux, socialistes, républicains disent « mais on peut remettre en question un jugement si c'est un faux jugement, et que l'armée n'est pas sacrée au point qu'on ne puisse pas la contredire ». Mais la droite anti-Dreyfusarde a trouvé dans l'antisémitisme véritablement l'instrument de ralliement de son camp. Et que sa défaite en 1906 avec la réhabilitation de Dreyfus, la réintégration de Dreyfus dans l'armée, etc., a été une grande victoire républicaine. Mais il n'empêche que Maurras, par exemple, et même très largement les anti-Dreyfusards, n'ont pas accepté le verdict de la Cour de cassation. Et même au moment de son procès, en 1945, Maurras a pu dire, n'est-ce pas, que c'était la revanche de Dreyfus. Sa condamnation, c'est la revanche de Dreyfus. Donc vous voyez la continuité extraordinaire de cette passion antisémite. Donc alors, il y a l'antisémitisme, mais dans cette quatrième droite, elle ne suffit pas à la définir. Et dans le national-populisme, justement, il y a ces deux mots, national, nationaliste. C'est un nationalisme. La France avant tout. Sous Vichy, ça deviendra la France seule, n'est-ce pas? La France avant tout. Et ensuite, la croyance, la défense d'un peuple, quelque chose d'un peu abstrait du reste, en tout cas de la souveraineté populaire contre l'oligarchie parlementaire, intellectuelle, républicaine. C'est ça le national-populisme. Il y a deux idées là. L'idée d'identité nationale, comme on a dit, n'est-ce pas, nous sommes français, et cela compte avant tout. Et deuxièmement, nous sommes le peuple français.
Et donc vous dites, vous, alors pour objection qu'aurait pu vous faire, ou que vous a fait peut-être René Raymond, que pour vous, cette droite, cette quatrième droite, donc national-populiste, n'est pas, selon vous, une variation ou un changement de cette droite légitimiste et réactionnaire telle qu'illustrée par Bonnal et Joseph de Maistre, qui intègre tous ces éléments-là. Mais peut-être, effectivement, ce que vous disiez, c'est l'articulation ou le moment de séparation, c'est ces éléments de masse, c'est ça ?
Absolument.
Qui rendent cette droite différente par nature.
Certainement. Et puis, un contenu. Parce que, alors, d'abord, vous remarquerez que les trois droites de René Raymond ont chacune été au pouvoir. Alors que la quatrième droite ne l'a jamais été. D'où la difficulté, peut-être.
Parce que Vichy, pour vous...
Vichy, on va y revenir, vous voulez.
Ça ne correspond pas à cette quatrième droite-là. Enfin.
Écoutez, Vichy est un syncrétisme idéologique dans lequel on trouve effectivement cette tendance, mais pas seulement. Et en particulier, les idées de Charles Maurras, qui ont quand même été assez fortement intégrées dans Vichy, ce n'est pas un populisme, n'est-ce pas ? C'est un nationalisme, mais pas populiste. Et c'est là la subtilité, la différence des choses. Alors, c'est une droite qui n'a pas été au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on peut lui objecter de son existence. Mais néanmoins, je la vois récurrente entre les deux guerres. Regardez, entre les deux guerres, à travers les ligues, en particulier dans les années 1930, avec la crise économique, où l'on voit ressurgir ces tendances à la fois antisémites et césariennes. Hein, regardez Doriot, par exemple. Bon, c'est cette idée, n'est-ce pas, qu'on assimile au fascisme, et qui n'est pas exactement cela, puisque c'est tout à fait antérieur au fascisme et antérieur à la Grande Guerre. Et puis enfin, on va la retrouver... pour aller vite, disons, avec la création du Front National. Alors, je vois beaucoup plus de continuité que n'y voyait, je dis au passé, René Raymond, parce qu'il va quelque peu changer d'avis. On va y venir.
Oui.
Donc, il y a bien, à mon avis, une quatrième droite, aussi par le contenu, parce que je sache, les trois premières droites n'étaient pas nationalistes, parce que l'époque ne s'y prêtait pas, du reste. Bon, mais elles n'étaient pas nationalistes. Vous savez, le mythe de la nation, c'est la gauche. Et c'est la République qui le portait. Donc, elle n'était pas nationaliste, elle n'était pas antisémite, elle n'était pas tellement populiste, en tout cas certainement pas les deux premières droites, le bonapartisme peut-être, puisqu'il revendique la souveraineté populaire. Et je vois bien une nouveauté dans le contenu, dans les formes, dans les engagements, mais elle ne parvient pas, en France en tout cas, à se cristalliser autour d'une doctrine, il y en a plusieurs, autour d'un homme, il y en a plusieurs, qui sont en concurrence. Et finalement, c'est là la nouveauté de Jean-Marie Le Pen et du Front National, c'est que pour la première fois, cette première droite, sans atteindre le pouvoir, va réussir à unifier tous ces courants divers sur des thèmes renouvelés, parce que cette droite-là, comme les autres, doit s'adapter, évidemment, au problème de l'heure, au problème des circonstances, à la conjoncture, etc. Et je vois bien une continuité. Alors l'autre objection de René Raymond, c'était mais il n'y a pas de référence intellectuelle. Et que Drumont, on le disait, n'en est pas une, vraiment. Et mais je lui fais remarquer que si on lit bien Maurice Barrès, notamment son livre qui est un recueil d'articles sur le nationalisme, on s'aperçoit qu'une grande partie de l'idéologie nationale populiste s'y trouve, avec l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, l'antiprotestantisme, l'aspect césarien, n'est-ce pas ? Il appellera un de ses romans « L'appel aux soldats ». Donc, Maurice Barrès, c'est pas rien, c'est un grand écrivain, admiré, n'est-ce pas, par beaucoup de gens, y compris des écrivains de gauche. Je ne cite que lui, mais on trouverait...
Sauf objection, professeur, c'est que le dit Maurice Barrès, au moment de la Première Guerre mondiale, et en ayant traversé la Première Guerre mondiale, contrairement à Maurras, il y aura un dialogue entre eux, va changer complètement d'idée et va considérer que les Juifs, pour prendre le cas de l'antisémitisme, font partie des familles spirituelles de la France. Donc, il y a le Barrès d'avant la guerre de 14 et puis celui d'après. Il mourra assez vite après.
Enfin, vous avez raison, mais ça n'empêche pas qu'il y a des écrits de lui qui datent des années 90 et du début du XXe siècle qui peuvent servir de corpus idéologique à cette quatrième droite.
D'accord.
Voilà donc. Alors, ce qui est intéressant et qui montre que chez les historiens, on peut débattre et qu'on ne reste pas éternellement sur ses positions... Il se trouve que dans un de ses derniers livres, en 2005, René Raymond écrit dans « La droite aujourd'hui », c'est le titre du livre, que à y réfléchir au fond, il y a peut-être bien effectivement une quatrième droite. Alors lui, il l'appelle la droite extrême. Soit, bon, nous l'appelions, nous, je ne suis pas le seul, il cite notamment... Pascal Perrineau, qui parle aussi, lui, d'une droite populiste, comme moi. René Raymond n'aime pas le terme parce que, selon lui, il reflète ce qui est visé, n'est-ce pas ? La clientèle visée et non pas la référence vraiment idéologique. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que, dans ce livre, il change quelque peu d'idées, et notamment sous l'effet de la continuité du Front National, qui vraiment s'épanouit dans les années 1980 et qui, 30 ans plus tard, en tout cas là, 25 ans plus tard, existe encore et se renforce encore. Mmh. Et puis, entre-temps, il y avait eu, évidemment, l'année 2002 où on avait vu Jean-Marie Le Pen arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, cette droite-là, cette extrême droite, comme on l'appelle, eh bien oui, elle n'est pas tout à fait, n'est-ce pas, une composition, une combinaison des trois autres droites. Voilà, donc le dialogue était ouvert, continuait, et même si nous n'étions pas absolument d'accord, il me semble que nos analyses convergeaient.
Et puis, comme vous le dites, effectivement, dans donc, Les droites en France, donc, publié en 1982, il se demandait, à la fin de son introduction, s'il n'existait pas de nouvelle droite. Et donc, effectivement, vous l'avez connu, sa souplesse intellectuelle et le fait qu'il n'était pas un idéologue des trois droites laissait à supposer que, effectivement, ce dialogue avec vous et tous ceux qui pensent qu'il y a une quatrième droite qui n'est jamais venue au pouvoir et qui, effectivement, voilà, converge vers ce lepénisme groupusculaire au début et qui, progressivement, s'est renforcé au point d'être, effectivement, à 20-25% du corps électoral français, enfin bon, donne consistance à cette idée. Écoutez, Michel Vinocq, merci beaucoup donc pour ce débat, à la fois sur cette permanence des trois droites et puis sur cette quatrième droite qui existe, existerait, et vous êtes un défenseur de cette idée qu'effectivement il y aurait une quatrième droite nationale populiste détachée et séparée des autres. Donc je renvoie nos lecteurs donc à votre livre, un de vos nombreux livres, donc le dernier, si je m'abuse, « La droite hier et aujourd'hui », paru chez Tempus en 2012, donc qui vient effectivement de paraître. Michel Vinocq, merci.
Merci.